La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Longtemps, le travail s'est, pour ainsi dire, confondu avec le salariat. Longtemps aussi, il s'est défini par opposition au loisir. Loin de simplement remettre en cause ces constats, la mutation numérique permet aussi de les relativiser historiquement. Dans un essai très stimulant, le sociologue Patrice Flichy trace les nouvelles frontières du travail à l'ère numérique. Il est aujourd'hui l'invité de la suite dans les idées. Une suite dans les idées, vous le savez, vous ne le savez peut-être pas encore, qui dure désormais 45 minutes, qui commence à 12h45 sur l'antenne de France Culture. Une suite dans les idées, désormais aussi structurée en deux parties. La première qui reste comme auparavant, un entretien avec un chercheur de sciences humaines et ou sociales, aujourd'hui donc Patrice Flichy. Et puis une deuxième partie qui permet d'ouvrir un dialogue entre les sciences sociales et d'autres modes de connaissance. Et aujourd'hui, j'ai proposé au designer Olivier Péricot de venir dialoguer avec Patrice Flichy sur cette question du travail. Olivier Péricot travaille à la Cité du Design de Saint-Étienne. Il a notamment été le chef d'orchestre de la Biennale du Design qui s'est intitulée cette année « Working Promise, les mutations du travail ». Patrice Flichy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes professeur émérite maintenant à l'Université de Paris-Esmad dans la Vallée. Vous êtes le directeur de la très précieuse revue Réseau, une revue qui est l'un de ces lieux qui nous permet depuis maintenant de très longues années de comprendre en temps réel ce qui se produit, en particulier dans cette mutation numérique. On vous doit des recherches les plus récentes qui portaient sur les amateurs, le sacre de l'amateur, le rôle de plus en plus important des amateurs dans ce monde numérique. Au fond, vous avez prolongé cette ligne de recherche, mais vous l'avez élargie. Vous vous êtes intéressé à la manière dont on parle du travail, question d'actualité en ce débat social en France, la manière dont on parle du travail bousculé par cette mutation ou révolution numérique, mais sans tomber dans cette naïveté qui consiste à croire que le numérique aurait de ce point de vue aussi tout inventé. En fait, bien des évolutions sont antérieures, elles sont même antérieures au salariat. Et c'est tout le mérite de ce livre, Les nouvelles frontières du travail à l'ère numérique, qui paraît dans la collection de Pierre Rosanvallon au Seuil, les livres du Nouveau Monde, que de l'envisager, à la fois dans une perspective historique et à travers une enquête qui concerne la relation au travail d'un certain nombre de personnes que vous avez rencontrées, Patrice Flichy. Vous êtes un peu, je dirais, agacé par l'équation qu'on compose, à savoir, enfin, qui pourrait se résumer en quelques lettres, Uber, en quelque sorte, pour penser le travail aujourd'hui.
Tout à fait. Parce que effectivement, la question des frontières du travail se pose depuis le début du 19e siècle. Finalement, à côté du travail réalisé dans l'entreprise, eh bien, se développent au 19e ou au 20e siècle d'autres formes du travail qu'on peut appeler l'autre travail. Alors, dans le milieu ouvrier, par exemple, ça avait été très bien étudié par Florence Weber sur ce qu'elle avait appelé le travail d'à côté. On s'aperçoit que toute une série d'activités dans les classes populaires étaient menées pour soi, pour ses proches, à côté de l'usine. Dans les classes moyennes, ça a plutôt été le do-it-yourself. Alors, le do-it-yourself, c'était finalement construire sa maison, aménager sa maison. Ça a pu être, chez les punks, vraiment une nouvelle utopie d'organisation du travail. Finalement, une des caractéristiques de cet autre travail, c'est que malgré tout, il est organisé dans un écosystème très très local. C'est fait pour soi, pour ses proches. Et je dirais que s'il y a une mutation du numérique, c'est pas d'inventer effectivement complètement des formes nouvelles, mais de donner à cet autre travail une autre dimension que j'ai appelée le travail ouvert. C'est-à-dire de pouvoir accéder d'abord à des ressources nouvelles. Hein. Dans le modèle de l'autre travail, on utilise finalement ses ressources propres, hein, ce qu'on a souvent appris hein, dans sa formation professionnelle, dans son entreprise. Aujourd'hui, ben, on le sait bien, hein, on peut trouver sur YouTube hein, des formations en plein de choses.
Des tutoriels.
Hein, des tutoriels pour faire la cuisine, pour utiliser un logiciel, pour apprendre à construire un mur, etc. Donc, possibilité de ressources considérables, possibilité de se greffer dans des communautés. On n'est plus seul, finalement, dans son jardin, dans son atelier, en train de bricoler. D'autant plus qu'on le sait bien, la grande différence depuis trois quarts de siècle, hein, c'est que le travail est quand même d'abord un travail de service, et donc pas seulement un travail du faire. Et puis, on peut accéder à des communautés de destinataires beaucoup plus larges, hein, que ce soit des communautés à qui on veut offrir, puisque finalement, ce travail ouvert peut prendre la forme du don, mais on peut aussi accéder à un marché international.
À travers des plateformes qui permettent de communiquer sur l'ensemble même de la planète, on va y revenir. Mais une autre chose importante, qui est un point de départ de ce livre pour vous, consiste à noter au fond que la question du travail a été posée par opposition au loisir. Et je dirais que cette opposition s'est cristallisée, s'est durcie aussi dans les traditions de recherche. Et que la sociologie s'étant professionnalisée, les sociologues des loisirs parlaient assez peu aux sociologues du travail. Il y a là, en tous les cas, deux traditions assez différentes. Et au fond, vous appelez de vos voeux à essayer de penser la manière dont l'articulation entre travail et non-travail, ou travail et loisirs, nous permet de comprendre ce qui est en train de se passer et qui ne ressemble pas à la fin du travail prophétisée par beaucoup, en fait, d'essayistes à succès, plus ou moins, Patrice Plichy.
Tout à fait. Alors, la figure tutélaire de George Friedman, hein, disons, grand sociologue français, est tout à fait intéressante parce que George Friedman est un des fondateurs de la sociologie du travail. Et dans la dernière partie de sa vie, finalement, il fonde la sociologie des loisirs, ce qui est un peu étrange. Souvent, on a oublié d'ailleurs le Friedman, sociologue des loisirs. Et cet itinéraire fait vraiment sens pour lui, parce que finalement, la conclusion, par exemple, du travail en miettes, hein, de ces différents textes, c'est que finalement, on ne peut plus réformer le travail. Le travail est aliénant, et il n'y a plus rien à faire d'une certaine façon. Donc, ce qu'il faut, c'est promouvoir les loisirs. Et en voulant promouvoir les loisirs, il y a tout un débat de savoir mais quels sont les vrais loisirs, les vrais loisirs créateurs qui permettent à l'individu de vraiment se construire, de construire un projet. Et je crois que c'est une vision effectivement assez fausse, d'une part qui considère que le travail est uniquement producteur de valeur, alors que le travail, c'est aussi un engagement dans l'activité. Le travail, c'est le domaine du faire, et ce domaine du faire, ben, il est aussi présent dans le monde des loisirs que dans le monde du travail. D'ailleurs, il y a une grande enquête qu'a fait l'INSEE, qui s'appelle Histoire de vie, qui a été finalement peu diffusée, qui montre bien que les gens pour lesquels le travail est un élément fondateur de leur identité sont très souvent les mêmes que ceux pour lesquels les loisirs, les passions, sont un élément central de leur vie. Donc ce lien entre passion et travail, il est effectif chez beaucoup de nos contemporains. Donc je crois que ça, c'est une erreur de vouloir opposer travail et passion.
Pour le dire autrement, le sociologue ne doit pas accepter une définition trop juridique du travail qui l'associerait étroitement au salariat. On sait que le salariat est en train de reculer comme statut, comme forme d'encadrement du travail. Et il ne doit pas non plus accepter une définition trop économiste du travail qui renverrait nécessairement à la valeur. Le sociologue doit s'attacher à l'activité du travail, c'est-à-dire ce que vous appelez le faire. Et pour cela, vous vous placez dans une tradition qui est plus anglo-saxonne que celle de la sociologie du travail française dont vous avez parlé. Une tradition qui renvoie aux philosophes pragmatistes, aux sociologues pragmatistes, en gros de John Dewey à Richard Sennett, Patrice Flichy.
Tout à fait. Alors, une tradition dans laquelle on pourrait d'ailleurs associer hein, un intellectuel français difficile à classer, hein, qui est Michel de Certeau, hein, bien que Certeau ne bon, soit pas un pragmatiste. Finalement, la façon dont il s'est intéressé aux arts de faire est effectivement assez proche de cette tradition-là. Et effectivement, quand on s'inscrit dans cette tradition, on est étonné de voir les continuités qu'il y a dans cet engagement dans l'activité. Alors, John Dewey, que vous citiez tout à l'heure, insiste sur le fait que, effectivement, ce qui est central, c'est de réussir à s'engager à fond dans une activité et que, évidemment, cet engagement peut être le même dans un travail matériel extrêmement simple. Et il prend l'exemple de la couturière et puis l'exemple canonique de l'artiste qui a un engagement beaucoup plus valorisé. Et je crois que cette idée que cet engagement dans le travail est le même pour est possible pour tous, il n'est pas le même pour tous, mais qu'il est possible pour tous, est un élément tout à fait important de cette tradition.
Ah, vous citiez l'artiste. L'artiste, justement, devient, pour des sociologues récents, le modèle des transformations du travail. C'est le cas de Pierre-Michel Menger, par exemple, oui. Qui, il y a quelques années, déjà avait publié un portrait de l'artiste ou du travailleur en artiste ou de l'artiste en futur travail.
Absolument. Alors, je crois que l'artiste peut nous aider à comprendre ces nouvelles formes, d'autant plus que finalement, j'ai été très frappé de la proximité qu'il y a entre l'artiste et l'informaticien, disons, hacker au sens général, hein, pas au sens de bidouilleur, de passionné d'informatique. Je dirais, il y a exactement le même engagement. Un des hackers que j'ai interviewé dans cette enquête explique que pour lui, il y a une sorte de continuité totale dans sa vie entre ses activités informatiques professionnelles et ses activités informatiques privées. Ce qu'il édite sur son blog est souvent finalement un élément de logiciel qu'il va pouvoir reprendre dans sa vie professionnelle. Donc on a atteint un petit peu le même objectif que celui de l'artiste.
À propos de l'informatique personnelle, hein, on oublie que PC c'est personal computer, en fait cette machine a joué un rôle considérable dans la définition de ces nouvelles frontières entre le travail ailleurs, comme vous dites, et le travail au sens classique du terme. Et là, c'est très intéressant de retracer, au fond, une histoire de l'informatique, un moment peut-être où l'informatique a été un petit peu plus libre dans l'entreprise avant d'être repris en main par les directions informatiques. Et dans le même temps, un certain nombre d'individus se sont saisis de ces machines à d'autres moments de la journée pour en travailler avec, parfois en rapport avec leur activité professionnelle. C'est toute cette zone grise que vous explorez, Patrice Flichy.
Tout à fait. C'est intéressant de rappeler que le micro-ordinateur s'est diffusé difficilement dans l'entreprise. Les directions informatiques, on ne parlait pas de DSI encore à l'époque, n'en voulaient pas. Ils voulaient finalement des grosses stations de travail.
Centrales avec juste des terminaux.
Tout à fait. Une informatique bête, entre guillemets. Et ce sont souvent un peu des marginaux dans l'entreprise, des gens un petit peu surdiplômés, des secrétaires de direction, des documentalistes, qui ont introduit discrètement cette machine, un peu en catimini. Et puis petit à petit, ça a été évidemment récupéré par l'entreprise, cadré, alors qu'en amenant cette machine, effectivement, c'était un outil de liberté. Et on pourrait dire que cet outil de liberté s'est réfugié dans le monde privé, car ce qui est d'extraordinaire avec le micro-ordinateur, c'est que c'est la même machine que j'ai au bureau et que j'ai chez moi. Que j'ai chez moi pour écrire un blog, pour faire de la musique, pour gérer mes photos. Et c'est finalement, c'est assez rare dans l'activité humaine que le même outil soit un outil privé et un outil professionnel. Donc je crois que cet élément outil d'autonomie de l'informatique est extrêmement important. C'est d'autant plus important de le rappeler qu'aujourd'hui, on a une vision de l'informatique qui est plutôt une vision d'un outil de contrôle. Mais je crois que l'informatique a toujours ses deux faces. Cette face d'autonomie et puis cette face, évidemment, de contrôle, de Google qui sait tout ce que j'ai fait, qui enregistre mes données. C'est essentiel de voir comment ces deux visions de l'informatique peuvent s'articuler.
Évidemment, vous ne tombez pas dans le panneau d'un déterminisme de la technique. Ce qui compte pour un chercheur comme vous, ce sont d'abord et avant tout les usages des machines. Et puis, c'est un contexte aussi social, économique, plus large. Une autre raison du brouillage des frontières entre travail et non-travail, ou travail ailleurs et travail classique, tient évidemment au changement de l'économie, et en particulier à la montée du chômage. Ça, vous le voyez aussi à travers cette enquête de l'INSEE que vous utilisez, Patrice Flichy. C'est-à-dire que c'est aussi parce que des individus se sont trouvés sans emploi à un moment donné qu'ils ont inventé ou réinventé un travail qui n'était pas un travail classique, mais un travail ailleurs, chez eux.
Parce qu'ils étaient sans emploi et aussi parce qu'ils étaient insatisfaits de leur travail. Un autre élément fort de cette enquête, c'est de s'apercevoir que ces outils du numérique sont aussi des outils qui permettent de changer de travail. Alors, accéder à un travail, on peut juste citer un chiffre, hein, Uber, semble-t-il, parce que c'est toujours difficile hein, de vérifier les données d'Uber, mais 25% des chauffeurs Uber, c'est des gens qui étaient au chômage. Donc c'est une façon, effectivement, d'accéder à un travail, souvent pas pour très longtemps, d'ailleurs parce que les gens vont repartir vers autre chose. Mais aussi, changer de travail, un autre chiffre, hein, une enquête de l'APEC montre que 15% des diplômés de Bac plus 5, donc des gens qui ont a priori tous les diplômes pour entrer sans difficulté sur le marché du travail, et ben 15% d'entre eux changent de métier. Ou plutôt, dès qu'ils arrivent dans leur métier, ils s'aperçoivent que ce métier ne les satisfait pas, ils vont partir dans une autre direction. Donc effectivement, le numérique permet soit d'accéder effectivement à un travail à la marge, alors à la marge à plein temps, mais à la marge aussi à temps partiel. Puisque le débat sur Uber est peut-être un peu faussé en France parce que le fait que Uber est intervenu en France de façon assez différente de la façon dont il est intervenu aux États-Unis. Aux États-Unis, l'essentiel des chauffeurs Uber font ça à temps partiel. Donc c'est une deuxième activité, ou une activité en plus. On pourrait prendre dans les plateformes l'exemple bien connu d'Airbnb, où la grande majorité des, entre guillemets, loueurs Airbnb sont des gens dont c'est une activité d'appoint. Donc, nouvelle activité ou activité d'appoint.
La question, au fond, quand on approche, comme vous le faites, le travail par le faire, par l'activité concrète, c'est qu'on peut comparer des situations qui, du point de vue de l'environnement, des statuts, du monde économique ou social ou juridique, sont extraordinairement différentes. À un moment dans le livre, vous dites, au fond, la même activité peut être réalisée dans des conditions extrêmement différentes. Une activité, prenons le fait de conduire sa voiture et de conduire sa voiture pour transporter quelqu'un d'autre. Alors, première situation, vous rendez service à un voisin que vous amenez à son travail ou à la gare parce que c'est un voisin et que vous lui rendez service. Deuxième situation, vous utilisez une plateforme de covoiturage et par cette plateforme, vous rendez compte que vous avez un voisin qui va travailler pas très loin de l'endroit où vous travaillez. Donc, vous partagez votre voiture pour vous rendre tous les deux dans un endroit. Troisième situation, Uber dont on parlait, c'est-à-dire une plateforme sert là à, pour des chauffeurs, trouver des clients. En fait, là, la valeur intervient, il y a rémunération. Et puis enfin, dernière situation, un chauffeur de taxi normal, classique plutôt, qui se fait rémunérer pour faire une course, amener quelqu'un quelque part. En fait, l'activité est exactement la même.
Tout à fait. Alors, l'activité est d'autant plus la même que finalement, un élément clé de la compétence du chauffeur de taxi, c'est ou c'était de connaître l'ensemble des rues d'une ville.
D'ailleurs, il y avait des examens parfois très difficiles. À Londres en particulier, c'est très compliqué d'obtenir le statut de chauffeur de taxi.
Tout à fait. Il faut aller plusieurs années pour connaître l'ensemble de l'agglomération londonienne. Aujourd'hui, avec le GPS, finalement, le premier cas, le chauffeur qui conduit un ami et le chauffeur de taxi, ils ont les mêmes outils. Donc, finalement, ça interroge sur les limites d'une profession. Et on comprend bien que le dialogue soit complexe, ou plutôt les affrontements entre chauffeurs de VTC et chauffeurs de taxi, parce que, effectivement, les compétences sont très proches. Et ce qui est assez intéressant à observer, c'est que finalement, l'entrée dans la profession de chauffeur de VTC, qui au démarrage s'est fait relativement facilement, il y avait un examen auquel tout le monde réussissait, aujourd'hui devient beaucoup plus difficile. Il y a 50% des gens qui échouent. Donc finalement, une sorte de nouvelle profession de chauffeur de VTC est en train de se créer et de se fermer. Et donc, je crois que la question du numérique interroge effectivement les frontières des professions.
Alors, je ne voudrais pas qu'on donne l'impression que vous avez une vision irénique de ces changements et que vous vous félicitiez toujours par principe de ce triomphe de l'amateur, du fait que les barrières d'accès aux professions se soient considérablement abaissées pour des raisons comme le GPS que vous venez de citer ou bien d'autres outils dans d'autres métiers qui exigent des compétences aujourd'hui plus facilement accessible à tout un chacun. Vous n'avez pas cette vision ironique parce que vous êtes bien conscient que l'un des enjeux concerne les plateformes, précisément, de mise en relation entre ceux qui proposent des services et ceux qui vont payer ou échanger pour les avoir. Et ces plateformes fonctionnent, on le sait, comme des boîtes noires, utilisant des algorithmes qui permettent de faire remonter en haut certaines offres de services, et alors que d'autres peinent à être visibles. Et donc, ces boîtes noires sont un véritable défi, je dirais, à des politiques publiques qui voudraient faire en sorte de remettre un petit peu d'équité ou d'égalité, en tous les cas des règles de fonctionnement qui soient adaptées à cette situation nouvelle, Patrice Fléchy.
Alors effectivement, ce qui est central dans ces plateformes, c'est l'algorithme qui fait se rencontrer l'offre et la demande. Et a priori, ça paraît simple. Finalement, quelqu'un qui cherche une voiture Uber, eh bien l'algorithme va essayer de trouver la voiture la plus proche. Mais en fait, il y a d'autres critères qui sont masqués. Il semble que Uber, finalement, va privilégier les modèles les plus récents, les marques les plus prestigieuses. Donc, un chauffeur Uber qui a, entre guillemets, une belle voiture et une voiture standard, eh bien, n'aura pas la même chance qu'on lui offre un client. Donc, il y a un masquage, finalement, des critères de choix qui est très, très important. De même, ces plateformes peuvent blacklister certaines offres sans l'expliquer. Et effectivement, c'est un élément central. L'autre élément, c'est que d'une certaine façon, ces plateformes non seulement contournent les règles, mais proposent un autre modèle. Alors, contourner les règles, bon, on le sait bien, c'est le débat entre les VTC et les chauffeurs de taxi. Proposer un autre modèle, je crois que l'exemple de ces plateformes de repas à domicile. Alors, non pas, on vous livre un repas, mais vous pouvez venir, comme sur Airbnb, finalement, dîner chez quelqu'un qui vous propose un menu intéressant. L'une de ces plateformes s'appelle With It, par exemple. Eh bien, les restaurateurs disent, mais écoutez, c'est tout à fait anormal, parce qu'il y a des règles sanitaires extrêmement strictes, hein, et ces règles sanitaires ne s'appliquent pas, puisque finalement, c'est de la cuisine familiale, c'est de la cuisine chez vous. Et donc, pour pouvoir, malgré tout, réguler un minimum, ces plateformes proposent une assurance. Donc finalement, on substitue à la loi l'assurance, hein, une assurance double, qui fait que si les entre guillemets hôtes cassent la vaisselle, eh bien l'assurance prendra en charge. Et puis si le restaurateur amateur entre guillemets les empoisonne, enfin les rend malade, eh bien l'assurance interviendra. Donc je crois que là c'est effectivement une mutation très forte. Un autre élément intéressant à remarquer, c'est qu'une des règles du commerce qui date de l'après-guerre, c'est que vous n'avez pas le droit de choisir vos clients. Vous ne pouvez pas refuser un client parce que sa tête ne vous convient pas. Vous pouvez, un café ne peut pas refuser, hein, c'est des débats il y a quelques mois là-dessus, des femmes par exemple. Hein. Eh bien, dans le monde des plateformes, vous pouvez refuser le client. Vous choisissez le client. Sur Airbnb, ben, vous regardez son profil, s'il ne vous plaît pas. Et même sur Uber, je dirais des clients qui se comportent particulièrement mal, eh bien, vont être mal notés. Et le chauffeur Uber a pas longtemps, mais 10-15 secondes pour les refuser.
Alors, un des enjeux, au fond, il n'est pas toujours facile de s'y confronter, c'est le pluralisme des plateformes. L'une des seules manières de sortir de l'imposition des règles obscures de ces boîtes noires par les plateformes, c'est que se trouvent en concurrence, finalement, différentes plateformes. Mais ça, c'est pas facile, parce que cette nouvelle économie qui se structure a tendance à se concentrer très très vite.
Tout à fait, d'autant plus que les plus grosses plateformes ont des moyens financiers considérables, moyens financiers d'abord pour affiner leur algorithme. Hein. Je crois qu'il ne faudrait pas croire que finalement c'est une activité extrêmement simple. Hein. L'investissement informatique de ces grandes plateformes est considérable. Investissement informatique qui leur permet aussi très rapidement de proposer des services complémentaires. Donc, dans la concurrence, elles sont avantagées. L'autre élément, c'est qu'elles ont des dépenses de communication, des dépenses de promotion considérables que les autres plateformes ont du mal à assurer. Donc, je crois qu'il appartient vraiment au pouvoir public. S'il y a une régulation de ce domaine, et là, je suis tout à fait d'accord avec vous, la première régulation, c'est de réussir à instaurer la concurrence la plus forte dans ces domaines. La deuxième, c'est d'essayer de créer de la transparence. Et pour ça, je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Ce ne sera jamais une politique publique qui réussira. Il est fondamental que les travailleurs des plateformes, qui n'en sont pas des salariés, ce sont des indépendants, puissent s'indiquer le fait que la dernière loi du travail, la loi El Khomri, ait permis à ces travailleurs de se syndiquer est un élément extrêmement fort. Alors, bien sûr, la création de syndicats d'indépendants est complexe, hein, ne serait-ce que leur rémunération pendant qu'ils s'occupent de l'activité syndicale n'est pas du tout résolue. Donc il y a de nombreuses choses à résoudre, mais je crois que si on veut éviter une sorte de dualisme, hein, face au numérique, avec des gens totalement intégrés qui sont ces informaticiens, qui sont des designers, des artistes du numérique qui sont extrêmement à l'aise dans ce monde, et de l'autre côté des gens complètement désaffiliés, il faut promouvoir effectivement des luttes syndicales en quelque sorte, pour reprendre une expression de Castells, hein, il faudrait construire un nouveau compromis social dans ce domaine.
Alors des designers, vous en parliez justement, des designers qui soient aussi orientés vers ce souci des biens communs du public, qui fassent du design public. C'est ce dont on va parler dans la deuxième partie de cette émission avec un designer, Olivier Péricot. Ce sera juste après ce morceau d'un collectif de travailleurs et d'artistes, un groupe canadien dont on n'avait pas eu de nouvelles depuis quelques années, Broken Social Scene avec Stay Happy.
Suite dans les idées, Sylvain Bourmont.
La suite dans les idées, deuxième partie, où il est question aujourd'hui de remettre le travail sur le métier. À propos de ce livre de Patrice Flichy, Les nouvelles frontières du travail à l'ère numérique, dont nous parlons depuis le début de cette émission, et dont nous allons continuer de parler avec Olivier Péricot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes designer, vous êtes le directeur de la recherche de la Cité du Design, qui est à Saint-Étienne, une des institutions majeures du design en France et au plan international. Et puis vous êtes aussi le directeur scientifique de la Biennale qui est associée à cette institution, la Biennale du design, qui a eu lieu au mois de mars-avril de cette année et dont la thématique 2017 était le travail. Le titre de la Biennale était « Working Promise, les mutations du travail ». On l'a compris en entendant Patrice Flichy, Olivier Péricot, on l'a compris que quand on est designer, on se trouve au cœur de ce qui est en train de se passer, à la fois soi-même comme praticien, parce qu'on est un peu, et même peut-être beaucoup, artiste, créateur, inventeur, mais aussi de par le type de production qu'on est invité à imaginer, à concevoir, et qui peuvent aider à l'interface entre ces nouvelles activités professionnelles et de loisirs. C'est-à-dire que le design, entendu au sens large du terme, peut-être qu'il faut qu'on se mette d'accord là-dessus d'ailleurs, parce que le design, c'est pas juste imaginer quelle forme ont des objets, c'est beaucoup plus vaste que ça. Enfin, en tous les cas, c'est pour ça que j'ai voulu qu'un designer vienne discuter avec Patrice Flichy, parce que je pense que vous êtes en première ligne sur cette question du travail, Olivier Péricot.
Oui, effectivement, l'une des entrées, par exemple, pour le design, c'est la question des interfaces qu'on utilise au quotidien. Le design qui s'intitule le seamless, en fait, qui a été un concept développé par Apple, qui est de dire, en gros, par un glissement de doigt, vous passez d'une application à une autre sans vous en rendre compte, dans une fluidité absolue. Cette question de la fluidité, c'est un des grands sujets de la réflexion des designers. Rendre la technologie accessible, ça a toujours été dans le métier quelque chose qu'on a étudié, sur lequel on a énormément avancé. Et voilà, donc on a un design qui, lui, participe en fait à cette organisation du travail qui change, ce travail qui rentre dans le domestique et qui coule dans le domestique. Il y a toute cette notion vraiment de fluide, de quelque chose d'impalpable, mais en même temps subtil, voilà, qui vous amène à vous retrouver en train de travailler sur votre smartphone, dans votre lit, à des endroits où jamais on travaillait auparavant.
Le design, c'est un objet d'étude que vous avez dû croiser. Je rappelais tout à l'heure à Patrice Flichy que vous étiez le directeur de la revue Réseau, une revue très importante pour la communication, l'étude de la communication. Et le design a été amené à prendre une place de plus en plus importante dans ces métiers.
Oui, je crois que la référence à Apple est tout à fait intéressante parce que dès le début de la micro-informatique, finalement, la vraie rupture de la micro-informatique, c'est de dire ils font un outil pour tous. Alors, IBM l'avait appelé le personnel computer, l'ordinateur le PC, personnel, le PC, et effectivement, une des ruptures sur lequel on n'a peut-être pas suffisamment insisté, du micro-ordinateur, c'est moins que, une grosse machine, c'est devenu une petite machine, mais que c'est devenu un outil directement accessible à tous. Et donc, un outil de base du travail intellectuel. Et là, effectivement, tous les travaux sur l'histoire de la micro-informatique montrent la place considérable que les designers, et incidemment d'ailleurs, certains chercheurs en sciences sociales ont pu avoir, je pense à Xerox PARC, par exemple, où des chercheurs en sciences sociales ont été associés dans le centre de recherche de Xerox, qui est considéré avant Apple comme le lieu où a été créé le micro-ordinateur.
Fred Turner le raconte très bien dans ses livres, en particulier sur cette matrice culturelle de la culture web. Olivier Péricot, donc, quand il s'est agi de choisir une thématique pour cette biennale, le travail s'est en quelque sorte imposé à vous. Je rappelle, c'est une manifestation importante, 230 000 personnes. On peut en retrouver la trace à travers le catalogue qui est disponible parce qu'elle est terminée, la manifestation. Mmh. Comment vous avez choisi ce thème du travail et des mutations du travail pour cette biennale du design ?
Le métier de designer a évolué considérablement depuis une dizaine d'années. On a des inscriptions des designers dans des champs où on ne les attendait pas. Ils sont au-delà de la question du mobilier. C'est là où on les connaissait, où le grand public les connaissait. Aujourd'hui, le design, c'est un design de service, c'est un design urbain, c'est un design
de mobilité,
etc. Enfin bref, on est dans tous les domaines, on trouve une réflexion par des designers, une présence des designers. Alors, leur rôle, en fait, sont des généralistes, et donc ils font cette liaison entre des choses, des nouvelles technologies qui émergent en permanence, et puis le grand public. Voilà. Donc c'est pas un métier hyper spécialisé, c'est plutôt un métier généraliste, il faut bien le garder en tête, et qui est perturbé en permanence par ce qui se passe dans la société. Donc là, nous, on a partagé au niveau de la Cité du Design, qui représente une centaine de salariés, la question du futur thème de la Biennale, et à chaque fois revenait cette question du travail. Parce que nous, on travaillait ensemble, parce qu'on était perturbé par les outils, parce qu'il y a un moment donné...
Vous rencontriez des problèmes de coordination, de communication entre
voilà,
vous.
Classique, dans une entreprise, de choses qui dysfonctionnent, fonctionnent très bien, nous précipitent ou nous ralentissent, etc. Donc, on a fait émerger ce thème. Et puis, quand on a commencé à creuser, on s'est aperçu qu'il y avait des enjeux très larges. Par exemple, tout ce qui se passe au niveau des tiers-lieux, et là on retourne sur les pratiques amateurs, nous a beaucoup intéressé parce que on retrouve des techniques qui viennent des écoles de design, en fait, les fameux Fab Labs et tout ça, ça sort des écoles d'art, ça sort d'endroits où les jeunes designers étaient formés avec ces questions-là. Et donc on a des nouvelles organisations de travail de ce côté-ci qui sont liées à des choix sociaux, à des gens qui veulent sortir, en fait, qui réagissent vis-à-vis de la fin du salariat, etc. Et qui trouvent d'autres formes d'activité. Vous parliez de cet intérêt pour le faire et pour les spécialités, etc., qu'on peut développer chacun. Donc ça, d'un côté, ça nous a beaucoup intéressé. De l'autre côté, les technologies qui, elles, avancent très vite. Le smartphone, moi, je pense qu'aujourd'hui, la question, c'est plutôt le smartphone que le personal computer. C'est là qu'il se passe quelque chose de redoutable. Tout le monde en a, là, pour le coup. Il n'y a pas besoin d'être un intellectuel pour savoir servir d'un smartphone. C'est un outil qu'on utilise sur un chantier, qu'on utilise dans des conditions extrêmes et dans des conditions classique de type universitaire, etc. Donc nous, on vient beaucoup plus du monde de l'université. C'est vrai qu'on voit il faut qu'on voit les choses comme le grand public, et ça, c'était un peu l'enjeu de cette biennale.
À écouter Olivier Péricot, on se dit, Patrice Fléchy, que une certaine forme de pratique du design n'est pas très éloignée de ce qu'a été ou de ce qu'aurait pu être une sociologie du travail pratique, au fond. Vous savez, ces sociologues du travail qu'on appelait pour résoudre des problèmes très concrets à l'intérieur des entreprises, aujourd'hui, ça ressemble davantage à une approche qu'on appelle design.
Oui, je crois que l'exemple du Fab Lab, hein, qui était cité tout à l'heure, est tout à fait intéressant parce que c'est non seulement un lieu de rencontre entre des amateurs et des professionnels, c'est aussi un lieu où se préparent et se créent de nouvelles activités. Dans ces personnes que j'ai pu interviewer, disons, en changement d'activité, je pense à une jeune femme qui faisait du contrôle de gestion et qui est devenue ébéniste. Eh bien, cette mutation vers le métier d'ébéniste s'est faite en bonne partie accompagnée par un Fab Lab. Il est certain que des mutations de ce type ne sont pas possibles ailleurs que dans les Fab Labs. Donc effectivement, je crois que ce lien, hein, entre ces lieux dans lesquels des designers sont très très présents est une sorte de matrice qui permet d'organiser un changement d'activité.
Fab Lab, donc, qui renvoie aussi à ce mouvement des makers. On avait fait une émission avec Michel Lallemand, évidemment un sociologue du travail, c'est pas un hasard s'il s'est intéressé à ce mouvement des makers en Californie, où il est allé passer un an à San Francisco pour observer ce qui se passe dans un lieu comme ça, parce que les enjeux sont aussi, Patrice Fléchy vient de le dire, Olivier Péricot, des enjeux de formation ou de co-formation, et qui reviennent bousculer les systèmes classiques, je dirais, d'études et puis de passage au monde du travail.
Il y a une ouverture à tout un autre public, en fait, des spécialités. Nous, on a vécu ça pendant la biennale, parce qu'on a fait une biennale où les activités se développaient au sein même de la biennale. Donc, vous veniez visiter, puis il y avait l'exposition sur les tiers-lieux qui était envahie justement par des acteurs des tiers-lieux qui, toute la journée, faisaient leur propre activité de tiers-lieux. Donc, vous retrouviez, vous pouviez participer à aussi bien une table ronde d'un côté qu'à un atelier de soudure, etc. Donc, on voit ces liens-là s'effectuer très fort. Derrière ça, il y a un activisme qui est aussi très présent. Ce qu'on appelle tiers-lieu, nous on englobe Fab Lab, espace de coworking, etc. Enfin, tous ces espaces où on vient partager de la connaissance ou partager du temps. Et ce qu'on a observé, c'est que finalement, il y a aussi une manière de s'occuper le temps qui est important, donc, dans notre société. Et cette occupation, en fait, c'est une richesse aujourd'hui de pouvoir se dire, tiens, en bas de chez moi, il y a un lieu de travail non salarié dans lequel je peux aller et je travaille et j'ai un statut de travailleur et j'ai un statut, je suis dans un Fab Lab et je suis non rémunéré mais je fais quelque chose et j'ai une spécialité et je peux la partager, donc elle a une valeur, etc. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est un peu comme le revenu universel, c'est quelque chose, vous avez un revenu universel de cette forme-là qui est de dire, voilà, il y a des lieux pour tout le monde qui sont gratuits et dans lesquels on peut s'épanouir.
Alors, Patrice Flichillon, il y a une question quand même qu'on n'a pas posée, puis on est en plein débat social en France, c'est celui, malgré tout, des formes de protection. Parce que on comprend bien que si on perd ce statut du salariat qui vous occupe 100% de votre temps d'activité pour avoir, certes, des revenus minimums du type dont parlait Olivier Péricot, il y a quand même des grands risques pour les personnes de se trouver en situation de très grande fragilité sociale et économique, surtout. Alors, autant vous disiez tout à l'heure les limites de politique publique par rapport aux plateformes, autant là, peut-être, des politiques publiques s'imposent et l'invention d'un nouveau droit du travail, travail étant entendu au sens désormais beaucoup plus large, est sans doute un impératif.
Tout à fait. Alors, je crois que d'une part, il faut quand même rappeler que on est très loin de la disparition du salariat. Grosso modo, quand on regarde un peu finement les statistiques, on pourrait dire que le salariat n'augmente plus. Il constitue encore environ 90%, on n'est pas très loin des 90% des personnes en situation de travail. Par contre, effectivement, la question d'un nouveau droit du travail, d'une transformation du droit du travail, renverrait peut-être à cette notion de compte d'activité, c'est-à-dire cette possibilité que toutes ces activités annexes donnent les mêmes droits sociaux en matière de retraite, en matière de chômage, de santé, de façon à pouvoir créer cette continuité entre une activité annexe qui peut-être va devenir une activité centrale. Et puis j'y reviens, je l'avais évoqué tout à l'heure, mais pour moi c'est absolument central que le droit syndical s'étende à ces nouvelles activités, qu'elles ne soient pas extérieures au droit syndical, parce qu'il est évident que il ne peut y avoir que des conflits très forts entre ces très puissantes plateformes et des travailleurs indépendants qui sont évidemment en situation de faiblesse. Mais on peut aussi rappeler qu'il existe des possibilités tout à fait intéressantes utilisant ces outils qui sont en quelque sorte la force des faibles. Dans les chauffeurs Uber que j'ai interviewés, certains d'entre eux s'échangent à travers une petite plateforme WhatsApp qu'ils ont bricolée. Eh bien, ils s'échangent les clients. Et donc, il y a aussi, avec l'informatique, des outils que ces gens qui sont plutôt en situation de faiblesse peuvent utiliser.
Merci beaucoup, Patrice Flichy. Je rappelle le titre de votre livre, Les nouvelles frontières du travail à l'ère numérique. Il paraît ces jours-ci aux éditions du Seuil. On trouve la référence bibliographique sur la page de la suite dans les idées sur le site de France Culture. On trouvera aussi sur cette page les références du catalogue de la Biennale du design Working Promesse, les mutations du travail. Merci Olivier Péricot. Je rappelle que vous étiez le directeur scientifique de cette Biennale du design. Et puis sur la page de la suite dans les idées, toujours, vous pouvez prendre l'habitude de réécouter l'émission autant de fois qu'il vous plaira et surtout de vous abonner au podcast de façon à ne manquer aucun épisode de la suite dans les idées. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production. Catherine Donnet à la réalisation. Anne-Laure Chanel à la technique. Valérie Lavalard. Et dans quelques instants, sur l'antenne de France Culture, c'est Christine Bernard que vous retrouvez pour une histoire particulière, première partie de cette semaine.